Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à
tous. Bonjour Antoine Janton.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Bienvenue de retour, je ne sais pas si ça se dit mais je vous le dis.
C'est pas très français,
ça ne m'avait pas échappé. Au sommaire de votre journal des médias.
De nouvelles excuses, une journaliste agressée en Ardèche, le retour d'une série à succès et puis un pays disqualifié à l'Eurovision.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise Bernard, qu'ont regardé les Français hier soir?
On a beaucoup d'audience aujourd'hui. Ah hier soir, donc TF1, le film Le Flic de Belleville, qui remporte la mise. 5 700 000 téléspectateurs, 24,8% de part d'audience pour un film qui n'avait pas du tout marché au cinéma. Ensuite, c'est France 2 avec le film Quai d'Orsay, réalisé par Bertrand Tavernier, le réalisateur qui est décédé jeudi dernier. Un petit peu moins bien pour France 2. 2 900 000 téléspectateurs, 12,5% de part d'audience. Mais c'est quand même la meilleure diffusion pour ce film. C'est pas la première fois qu'il était à la télé. Il avait déjà été diffusé sur France 2 en 2017, sur Arte en 2019. C'est donc le meilleur score pour une diffusion de ce film. Puis c'est M6, le magazine Capital, qui reprend des couleurs après il y a 15 jours. Il était pas très en forme, à 8% seulement aujourd'hui. Hier, 2 710 000 téléspectateurs, 12% de part d'audience. C'était sur le gaspillage de médicaments, notamment. Ouais. Vous en avez parlé dans le journal des médias.
Samedi soir, Louise,
The Voice a repris sa place de numéro 1, battu par le rugby la semaine dernière. 5 200 000 téléspectateurs cette semaine. Un score moins bon que les premières émissions de la saison. Moins bon, mais loin devant France 3 qui proposait sa série Commissaire Magellan. 3 200 000 téléspectateurs. M6 arrive troisième avec la série Hawaii Favo qui rassemble 2 200 000 téléspectateurs, mieux que la semaine précédente. Et pour finir, de parler du week-end quand même.
Et oui, vous voulez dire un mot de vendredi.
Exactement, le duel Koh-Lanta-Rugby. On en parlait avec vos invités vendredi matin, Mathieu Lartaud et Cécile Gray. Mathieu Lartaud nous avait offert cette punchline.
Ce soir, l'épreuve des poteaux, c'est sur France 2.
Alors, qui a gagné?
Alors, pas les Bleus, mais c'est France 2 avec un record pour la chaîne. 7 650 000 téléspectateurs, meilleur score du tournoi Destination depuis 2010. Koh-Lanta qui en pâtit un petit peu forcément, perd 500 000 de téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Quand même un bon score, 4 900 000 téléspectateurs était devant TF1 vendredi soir.
Culture Média. Le journal des médias, donc Antoine Janton, avec à la une les excuses appuyées de Pierre Ménès.
Ouais, le journaliste vient de publier un message sur son compte Twitter, 8 jours après la diffusion de ce documentaire, Je ne suis pas une salope, documentaire qui mettait en cause le traitement de certaines journalistes sportives dans les rédactions. C'est Marie Portolano qui avait porté ce film. Le message de Pierre Ménès s'adresse justement à Marie Portolano, dont il avait soulevé la jupe face à un public après une émission, et à deux autres femmes, Isabelle Moreau et Francesca Antoniotti, qu'il avait embrassée sans qu'elles y aient réellement consenti. Je regrette sans ambiguïté tous ces gestes du passé qui ne se justifiaient absolument pas. Je réitère mes regrets et mes excuses les plus sincères, écrit Pierre Ménès dans ce message donc diffusé sur Twitter.
Aucun rapport avec le football, une nouvelle agression de journaliste ce week-end.
Cela s'est passé en Ardèche samedi matin. Une journaliste reporter d'images de France 3 allait filmer une interview sur le marché d'un village. Un rassemblement hostile aux mesures sanitaires devait s'y tenir. Un homme s'est alors interposé, demandant à ceux qui allaient répondre s'ils n'avaient pas honte de parler à des journalistes. Il a frappé la caméra, ce qui a blessé la reporter au visage. L'homme a fui avant d'être interpellé par les gendarmes. La chaîne a indiqué qu'elle allait porter plainte. Cette agression intervient près d'un mois après celle d'un photojournaliste du journal L'Union à Reims, Christian Lantenois, qui vient de sortir du coma, mais dont l'état de santé reste encore préoccupant. Agression violente, symbole des actes violents, de plus en plus nombreux, commis contre les journalistes. Une situation qui a été dénoncée la semaine dernière dans une tribune signée par les responsables de 300 titres de presse.
En Turquie, des journalistes de Charlie Hebdo ont été inculpés.
Un procureur turc a réclamé jusqu'à 4 ans de prison pour insulte contre le président Recep Tayyip Erdogan. Tout cela à cause d'un dessin de une de Charlie Hebdo. C'était en octobre dernier. On y voyait le président turc dessiné en slip, bière à la main, soulevant la robe d'une femme voilée en s'écriant « Ou le prophète » avec en légende Erdogan dans le privé. Il est très drôle. Dessin signé Alice Petit. Elle fait partie des 4 personnes inculpées. Avec elle, 3 responsables du journal, dont Rhys, le directeur de la publication.
À l'étranger encore, au Brésil, en l'occurrence, le président vient d'être condamné à indemniser une journaliste.
Ouais, près de 3000 euros pour préjudice moral. Jair Bolsonaro avait tenu des propos machistes, sexistes et dégradants l'an dernier à l'encontre de cette journaliste, Patricia Campos Melo. Il avait insinué qu'elle avait essayé d'avoir un scoop contre lui en échange de faveurs sexuelles.
Et puis aux États-Unis, Fox News de nouveau attaqué en diffamation.
Attaqué pour avoir relayé des théories complotistes contre l'une des sociétés en charge des machines électorales, Dominion. Des théories selon lesquelles ces machines étaient truquées, ce qui aurait donc entraîné la défaite de Donald Trump. En tout cas, c'est la version relayée par Fox News. Dominion réclame 1,35 milliard 50 millions d'euros à Fox qu'elle accuse dans sa plainte d'avoir diffusé et répété à l'antenne des mensonges, dit-elle à la fausseté vérifiable.
Le focus programme du jour, Antoine, c'est le retour d'une série animée pour adultes sur Canal+.
Les Cassos, vous la connaissez peut-être, 5e saison donc à partir d'aujourd'hui, une série qui tourne en dérision des héros, de livres, de bandes dessinées, de films, de jeux vidéo et j'en passe. Ils deviennent des personnages décalés, névrosés et accablés par des problèmes qui les conduisent dans le bureau d'une assistante sociale. On y voit par exemple, vous connaissez hein, ce personnage de littérature pour enfants. Eh bien, oui devient un fan de tuning qui préfère sa voiture à sa femme. Astérix et Obélix, eux, deviennent Aspégix et Gros Débilix, deux bretons alcooliques. C'est drôle, effectivement, et ça cartonne. 500 millions de vues cumulées pour les 4 premières saisons que vous pouvez voir également sur YouTube. On a demandé à William Trébucien, le réalisateur de cette nouvelle saison, comment il explique le succès des Cassos.
Ce qui fait le succès de la série, je pense que c'est un peu le fait que ce soit assez impertinent et en même temps complètement dans l'air du temps et dans la pop culture, en fait. C'est une série qui est très facile à apprivoiser quand on s'y met. C'est un concept plutôt qu'une série. Il peut arriver tout et n'importe quoi dans ce bureau. Il y a toujours la surprise et je pense que les gens apprécient qu'il y a un renouveau, en fait, à chaque fois en termes de personnages, en termes d'humour. Et puis en plus, qu'il n'a pas peur d'aller loin dans l'humour, en fait, dans le trash parfois, dans le glauque. Il y a tous ces petits ingrédients-là pour que ça fonctionne.
Voilà, et ces petits ingrédients, vous les retrouvez dans cette 5e saison, 16 épisodes et une dizaine de nouveaux personnages avec les Simpsons, hein, par exemple, devenus les Simplons. On a hâte de voir ce que ça donne. Pour les connaisseurs, sachez que l'assistante sociale est de retour après une saison d'absence. Les Cassos, donc, saison 5, c'est à 20h50 sur Canal+, décalé, ou bien en ligne sur MyCanal, et c'est une création Bobby Prod.
Et puis un pays disqualifié pour l'Eurovision.
C'est la Biélorussie, la faute à sa chanson qui est jugée trop politique par les organisateurs, ce qui va à l'encontre des règles du concours de chant. Pas de politique à l'Eurovision. Les paroles font allusion de manière plutôt hostile d'ailleurs aux manifestations en cours dans le pays. Des manifestations contre la réélection du président Alexandre Loukachenko, jugé truqué par l'Union Européenne. Une deuxième version de la chanson a bien été proposée, un peu plus nuancée, mais pas suffisamment pour convaincre l'organisation du concours. La Biélorussie, elle, dénonce une décision politiquement motivée.
Et puis pour finir, une première dans le monde du football.
Oui, ça va intéresser sûrement la Ligue de football professionnelle en France. Pour la première fois, une plateforme de streaming va diffuser la totalité d'un grand championnat européen, celui d'Italie. Cette plateforme, c'est DAZN, D-A-Z-N, on la surnomme le Netflix du sport. Elle a battu le diffuseur historique de la Serie A, donc en Italie, Sky. DAZN va payer environ 840 millions d'euros par an.
Merci beaucoup Antoine Janton pour ce retour. Merci Louise Bernard pour tous ces chiffres. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias et les audiences.